Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, on enchaîne les journées du MIPIM. On est avec vous aujourd'hui, c'est le 14 mars 2024. On est heureux d'être avec vous. Je vous rappelle que le MIPIM, ça finit demain. On est encore ensemble toute la journée. Alors, on a un temps un peu plus gris aujourd'hui, mais c'est pas grave, on voit la mer. On est très heureux d'être entre nous. Vous pouvez encore vous accréditer. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous faites comme vous l'avez fait hier avec beaucoup de commentaires extrêmement sympathiques de nous suivre sur Radio Immo. Voilà, on va parler investissement, si vous voulez bien. Investissement, sujet vraiment capital, au sens propre comme au sens figuré, bien évidemment, avec deux personnes parties prenantes pour évoquer ce sujet. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Fabrice Aubert. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Directeur général adjoint du groupe Nexity. Merci d'être avec nous. Et Louis Bayon, directeur général immobilier de Batipin Immobilier Europe. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Messieurs, on parle d'investissement immobilier. L'année 2023 a été particulièrement chahutée. On voit, alors ça dépend des classes d'actifs, hein, mais globalement, on voit bien qu'il y a une certaine morosité lorsqu'on mesure les niveaux d'investissement. On peut le dire parce qu'on va faire on va pas se priver de faire une petite rétrospective. On a un peu rasé gratis pendant une dizaine d'années où c'était un peu open bar. Il y avait bon, ok, pourquoi pas. On était sur un marché haussier. On est sur des cycles économiques. On peut tout à fait les analyser d'ailleurs, cause effet, bien évidemment. Ayant tiré les conséquences. Fabrice, si je vous demandais de dire comment se profile l'année 24 en termes de stratégie d'investissement, tant soit peu qu'il faille d'ailleurs évoquer les contours d'une stratégie, parce que ce qui a quand même beaucoup changé en économie, c'est que tout ce qui a été prédit ne s'est pas produit par rapport à certains, donc pas évident.
Il y a beaucoup de choses que Nexity avait prédites qui se sont produites.
Alors dites-moi un peu.
Non, on a connu en 2022 et 2023 un choc de taux, c'est-à-dire que tout le monde a redécouvert que l'immobilier était une valeur de taux, une valeur monétaire. Et donc de manière assez anticipée, on avait prévenu qu'un relèvement des taux entraînerait mécaniquement une pression baissière sur les prix de l'immobilier. Et donc une perte de pouvoir d'achat, et qu'en réalité, parce que l'immobilier est un actif réel, qu'il faut du temps pour produire, on prend pas un virage à 90 degrés, ni même à 180 degrés, en aussi peu de temps, parce que ça prend du temps à produire, que les prix pourraient pas s'ajuster, et donc que le marché allait s'effondrer en volume. Ça, on l'avait prédit il y a 18 mois, et ça s'est passé exactement comme on l'avait prédit. Et donc tout le sujet maintenant, c'est de savoir si, pronostic pour l'année 24, si le cumul de, en tout cas pour le marché du détail, mais on va venir sur le marché des investisseurs institutionnels, si le cumul de la petite baisse des prix qui a quand même eu lieu, la décrue des taux d'intérêt qui se profile, qui a déjà commencé, mais qui pourrait s'accentuer si la Banque Centrale Européenne nous prête vie, et puis la hausse des salaires nominaux qui a amélioré un petit peu la situation de pouvoir d'achat des ménages, si le cumul de tout ça fait qu'on a retrouvé assez de pouvoir d'achat pour que le marché du détail reparte. Si le marché du détail repart, la machine va repartir, parce qu'on va être capable d'avoir des pré-réservations, de lancer une nouvelle offre commerciale. Et du coup,
et vous l'imaginez sur quel horizon, dans les 18 prochains mois, c'est quoi, 24, 25
C'est là que ma boule de cristal
s'arrête.
On espère, si la macroéconomie se comporte de manière à peu près rationnelle, qu'au tournant de l'été, c'est-à-dire à horizon de juin, quand... il est vraisemblable que les banques centrales commencent à baisser les taux, qu'on voit quelque chose se passer. Hein.
Louis, est-ce que vous partagez le même sentiment ?
Oui, on partage tout à fait le même sentiment que Fabrice. Nous, Batipin, on est des investisseurs nets depuis 2 ans et demi. On a vendu près un peu plus d'un milliard d'actifs et on s'est remis à l'achat depuis janvier. Aujourd'hui, je pense qu'on est un des rares investisseurs à être présent sur plusieurs dossiers en exclusivité.
C'est très clair. Ouais, voilà. C'est très clair.
Alors, sur différentes...
Qu'est-ce qui a motivé justement ce choix de dire... Voilà,
la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs qui se produit maintenant. Quoi. C'est-à-dire que je pense que pas mal de vendeurs ont accepté une baisse de prix.
Vous voulez dire que le timing, finalement, la tension qui fait qu'à un moment donné, cet attentisme, qu'on peut comprendre d'ailleurs, finalement les a poussés à dire « Ok ». On a encaissé, on intègre cette baisse de prix.
Ah oui, je pense, oui. Parce que nous prenons 4 mois, on envoyait beaucoup d'offres et il n'y avait pas de retour où l'investisseur retirait l'actif de la vente. Quoi. Et aujourd'hui, ça y est, on arrive à se retrouver, on arrive à discuter et j'espère qu'à la fin, on va pouvoir acter. Quoi.
On parle de baisse de prix.
On
est d'accord, est-ce qu'on peut donner des orientations? Ce sont des décotes ou des baisses de prix de l'ordre de combien? 5%, 10% plus?
C'est les
il n'y a pas de moyenne.
Les moyennes n'ont pas beaucoup de sens. En fait, il y a vraiment deux segments très différents, hein, qui sont le marché de la vente au détail et le marché de la vente en bloc. Le marché de la vente au détail, les chiffres, ils sont publics, ils sont connus. Oui, ça a ajusté d'à peu près 5%.
C'est ça.
Ce qui est très faible en termes absolus, mais 5% d'ajustements nominaux dans un environnement d'inflation à 4, 5, 6%, c'est pas mal en termes réels. Donc il y a eu effectivement un ajustement de prix qui a rendu du pouvoir d'achat aux acheteurs. En bloc, on se parle plutôt de décote de bloc. Et donc là, l'enjeu pour le marché, c'est d'arriver à servir un rendement. En fait, ça c'est plutôt Louis qui pourra en parler, mais d'être capable d'être à la fois... au-dessus du coût de la dette, parce que c'est quand même ça le principal enjeu, de pouvoir retrouver du levier sur l'investissement immobilier, et en plus que l'immobilier redevienne attractif par rapport à d'autres classes d'actifs. Vous n'allez pas faire de l'immobilier à 4% si vous pouvez faire de l'obligation Danone à 5,5%.
Ah, c'est clair.
Donc il faut que le marché s'ajuste, et donc on espère que ça va se produire dans un environnement, enfin dans un horizon très proche.
Est-ce que cette dynamique va s'engager avec les autres investisseurs, Louis? Vous connaissez tous. Donc
on les connaît tous, mais oui. C'est vrai qu'on sent une certaine morosité chez les investisseurs, notamment les vrais institutionnels aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on connaît de la pierre papier. Quoi. Donc est-ce qu'ils vont arriver à revenir d'ici peu sur le marché?
Pierre papier, d'ailleurs, qui a connu quand même des années exceptionnelles.
Ouais.
Avec des taux de rendement, enfin, Fabrice, quand on voit. Quand je mesurais là avec le patron de Sogénial, une SCPI assez performante, ce qu'ils avaient servi comme taux de rendement, c'est impressionnant.
Ah mais c'est, enfin, nous, on croit beaucoup en cette catégorie de placement. Alors, c'est une doctrine d'emploi particulière. mais on pense que dans un patrimoine standard d'un client, ça a beaucoup de sens d'avoir une proportion de pierre papier. Et donc Nexity, depuis l'année dernière, on distribue. On a une petite plateforme qui s'appelle Pierre Papier Immo, dans laquelle on propose des produits de pierre papier à nos clients. Et c'est vrai que les rendements maintenant sont vraiment attractifs. Alors il y a eu un effet de winner takes all, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des véhicules plus anciens qui avaient des rendements moins attractifs, qui ont décollecté assez brutalement dans les derniers mois. Mais il y a encore de la collecte nette très importante sur les 3-4 stars du marché et qui aujourd'hui sont des véhicules très, très performants qui probablement finiront par se fermer pour créer un millésime.
Voilà, vous distribuez chez Nexity. C'est une vision presque de gestion patrimoniale.
Absolument.
Parce que les CGP sont essentiellement les distributeurs de ce type de produits.
Absolument, mais finalement, quand quelqu'un pousse la porte d'une agence Nexity, qu'elle soit physique ou virtuelle, il vient quand même chercher un conseil. C'est-à-dire, on a toute une partie de nos clients qui savent exactement ce qu'ils veulent acheter, le lot X dans le programme Y. Donc ceux-là, ils ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de venir nous voir parce qu'à un moment, il faut passer devant le notaire. Mais ils viennent pas chercher du conseil. On a en revanche toute une partie de nos clients qui sont des gens qui ont de l'argent à investir et qui ont envie de faire un peu de pierre. Et donc pour ceux-là, on pense que notre devoir de conseil finalement, même s'il n'est pas au sens juridique, mais en tout cas au sens commercial, c'est d'essayer de leur proposer une allocation d'actifs intelligente. Et donc souvent, si vous avez un peu d'argent à mettre et que vous avez une capacité d'emprunt qui n'est pas saturée, ça peut valoir le coup par exemple de ne pas tout mettre sur un produit d'acquisition immobilière. Vous pouvez prendre une partie de cet apport et puis en faire un petit bout en pierre papier à côté.
J'évoquais Louis avec le patron de PIMCO, Louis-François Troche. Donc, pour Allianz Real Estate, maintenant c'est la marque Bimco. On parlait justement du marché obligataire, du marché de l'investissement à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Je vais poser une question qui l'a interpellé. C'est l'aspect normatif, le poids normatif. Est-ce que l'inflation normative qui pèse très durement sur l'immobilier, on l'a vu, et ça c'est lié aux politiques publiques, pour être très clair. Il y a des dénominateurs communs sur le marché européen, très clair, sur la crise du logement, sur les problématiques. Et on voit bien que les villes d'Europe, d'ailleurs, ont les mêmes types de problématiques. Mais en France, il y a une particularité, c'est justement l'impact justement normatif. On peut même parler d'inflation normative, voire même d'injonction contraire. Est-ce que ça, ça impacte les stratégies d'investissement en France ou pas?
Alors nous,
est-ce que c'est quelque chose dont vous tenez compte ou pour vous, c'est zéro débat?
Je ne sais pas si c'est zéro débat. En tout cas, nous, on est présents sur deux marchés principaux qui sont la France et l'Espagne. Et on voit qu'en Espagne, le marché est un peu plus déréglementé, notamment en logement.
Quoi. Ah oui, oui, c'est clair.
Donc, et aujourd'hui, justement, on est associé avec Nexity sur un secteur qui est l'immobilier géré résidentiel. Et on arrive plus à déployer du capital aujourd'hui en Espagne qu'en France. À cause de cette problématique de normes.
Donc ça a une influence sur votre stratégie d'investissement.
Ça a quand même une influence sur notre stratégie d'investissement.
Et vos clients ils vous le disent.
Plutôt le genre.
Ils vous le disent.
Nos clients.
Quand vous investissez, quand je dis vos clients, quand vous investissez,
oui.
Vous avez une relation, par exemple, vous parlez du marché espagnol. Est-ce que le fait, par exemple, que ces marchés-là soient déréglementés, permet une flexibilité plus importante sur l'investissement
forcément.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poteau entre le marché espagnol et le marché français.
En logement, non. En logement, c'est plus simple d'investir en Espagne aujourd'hui.
Ouais, c'est pas très rassurant.
Il y a quand même une très grande différence. On en parlait avant que l'émission démarre, mais donc ça commence à venir en Espagne, mais le gros sujet en France, c'est quand même le plafonnement des loyers. Et donc
la réglementation un peu très dure sur
la réglementation dure dans les relations propriétaire-bailleur. Mais c'est vrai que un des causes de non-ajustement du marché, c'est que si vous avez un loyer bloqué, vous ne pouvez pas avoir un rendement qui s'ajuste. Et donc en fait, il ne peut s'ajuster que par une baisse du prix de l'actif. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées, le prix de l'actif, il est sticky, comme on dit
Sachant avec l'augmentation des coûts de construction qu'il y a eu ces dernières années.
Exactement. Donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver un peu d'air normatif. Autrement dit, on est dans une industrie qui est extrêmement régulée. Elle a été longtemps subventionnée. Là, on a un stock de subventions qui baisse de manière très significative. Hein. Le coin de prélèvement ou le net des prélèvements qui pèse sur l'immobilier s'est considérablement accru depuis 2017. Et donc tout le sujet, c'est si on ne veut pas remettre de l'argent public dans ce secteur, et c'est tout à fait compréhensible, comment est-ce qu'on arrive à modifier cet espace normatif pour permettre au marché de s'ajuster. Et donc il y a plusieurs façons de le faire, mais on pourrait y revenir. Mais il faut aller chercher de la simplification qui modifie l'équilibre économique du secteur immobilier, sinon ça ne sert à rien.
Vous investissez particulièrement dans le logement, dans la stratégie d'investissement?
Alors nous, on est présents sur 4 classes d'actifs, même 5, on va dire. Le bureau, mais uniquement dans les régions, les villes de région. On est peu présents à Paris, quasiment pas. On est présent sur le commerce en Europe, le loisir, qui est une classe d'actifs qui a très bien résisté à la baisse.
Alors le loisir, par exemple, juste pour...
On est propriétaire de murs de Center Park, de clubs méditerranéens, d'hôtellerie.
Alors
ça en Europe.
D'accord.
Et la dernière classe d'actifs, c'est le logement, où on fait une opération de co-living, donc du locatif géré, en Europe.
Sur le tertiaire pur, non, c'est pas...
Le bureau, mais dans les régions.
D'accord.
Dans les régions.
Pas de logistique. Pas de retail?
Ah si, de retail.
Un peu de retail, ouais. D'accord.
On a fait une très grosse opération avec ADO, donc on a acheté un gros portefeuille, le Roi Merlin en Europe, et aujourd'hui on déploie pas mal d'argent dans le retail.
C'est intéressant, votre entreprise, parce que finalement, je reprenais un petit peu l'historique du groupe, hein, je veux dire, c'est Charles Rodgeri hein, qui est le fondateur. Sacré personnage. Hein.
Tout à fait.
Ah ouais. Vous l'avez connu
Je l'ai indirectement connu, mais beaucoup d'admiration pour ce parcours.
Ah ouais. Je pense que le siècle ne produira plus, notre histoire ne produira plus des profils comme Charles Rodgeri. Ça doit être extrêmement, c'est extraordinaire. Justement, dans cet esprit qui est très axé logement, parce qu'au début, c'est quand même très logement. Hein. On est sur des actifs résidentiels. L'immobilier opéré. Tout le monde parle d'immobilier opéré comme si c'était la martingale. Tu sais, il n'y a pas un investisseur que je n'ai pas vu ici qui, aujourd'hui, dit, voilà, les leviers, c'est l'immobilier opéré, c'est le taux de rentabilité, c'est ce qui lui permet de...
Il ne faut pas se la fâche. À la fin, c'est clair.
Co-living, résidence étudiante, immobilier géré avec les personnes... immobilier géré pour les personnes âgées, le groupe...
On l'a fait.
C'est Corian.
Corian, et puis nous, on avait un portefeuille de murs de maisons de retraite en Europe, mais on l'a vendu il y a 3 ans.
Oui, vous n'y êtes plus.
On n'y est plus, on l'a arrêté.
Vous avez bien fait.
Ouais.
Non, mais c'est malin. Non, mais attendez, je ne sais pas qui a eu cette idée géniale, mais c'est malin de l'avoir fait. Dans le contexte.
C'est clair.
Mais on vous aurait fusillé. Non, mais c'est vrai.
Mais ça va devenir un vrai sujet sociétal. Non,
mais c'est malin ce que vous avez fait.
Il y a des groupes de résidents seniors et d'EHPAD qui sont en difficulté. Donc, il y en a certains. On a été actionnaire majoritaire longtemps du groupe Égide qui a été transmis à G2R La Mondiale. On reste co-actionnaire de ce groupe-là. On est aujourd'hui des minoritaires. Mais, donc c'est des groupes qui risquent rien dans la sens où...
Alors, c'est risqué rien parce que c'est une belle réussite.
Voilà.
Il n'y a jamais eu un souci avec Égide 2010. Jamais.
Mais il y a des plus petites structures qui aujourd'hui ne sont pas à l'équilibre, qui ont des résidences ouvertes. Et donc, si ces groupes sont en difficulté, je ne sais pas ce qu'on va faire des résidents de ces résidences seniors.
Mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le volume, le portefeuille, je regardais là sur le site, la répartition du portefeuille aujourd'hui, vous êtes devenu, c'est extraordinaire parce que vous êtes devenu depuis 1998 un acteur aujourd'hui incontournable dans le secteur.
Oui, on est très présent en tout cas. Un peu contre-cyclique et très présent.
Ça a beaucoup l'humilité. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, cette nouvelle génération qui est maintenant aux affaires, on a quand même une certaine humilité aujourd'hui. Je crois qu'on a tiré parti, finalement, de ce qu'il y avait de mieux dans les pratiques et qu'aujourd'hui, on aborde un nouveau monde. D'ailleurs, c'est un nouveau monde à plein de sujets. J'ai une dernière question, plutôt une réflexion à vous livrer. J'aimerais qu'on échange, justement. On est les problèmes de démographie touchent l'Europe. C'est un vrai dénominateur commun. Là, on est en face de Berlin, Stuttgart, il y a Nice Côte d'Azur, il y a des villes d'Europe. Je rappelle qu'il y a 105 pays ici rassemblés. On voit qu'il y a un dénominateur commun qui est lié donc à la démographie. Démographie avec un vrai problème de logement. Et ce qui frappe, d'un point de vue presque anthropologique, les sociétés modernes, on voit bien d'ailleurs qu'il y a une corrélation entre un urbanisme, un immobilier et le régime de gouvernance. Intéressant d'ailleurs. J'avais un excellent article qui comparait, qui faisait la comparaison entre l'urbanisme et du temps de Staline, du temps des grands dictateurs, et qu'on peut reconnaître finalement la vitalité d'un pays libre ou pas en fonction de son urbanisme. C'est intéressant parce que c'est un angle que j'avais pas perçu. C'est clair que quand on est dans des pays un peu dictatoriaux, on voit bien que c'est un urbanisme massif, par exemple. Tu vois, c'est des choses comme ça. La décohabitation est un phénomène très très marqué et qui est un bouleversement, j'allais dire même de la conception même de la cellule familiale. Tu vois. Et on voit que la demande de logement, juste sur les 20 dernières années, elle a littéralement doublé, avec une démographie qui est finalement constante. Premier élément. Le deuxième élément, on arrive de plus en plus tard sur le marché du travail. Et on accède de plus en plus tard à la propriété. Et on voit bien, si on analyse aujourd'hui les marchés européens, ce phénomène. Quand on est investisseur, quand on s'appelle Batipar aujourd'hui, qu'on voit ces mouvements sociaux, sociétaux, une vision presque sociologique des sociétés modernes qui impacte très durablement les stratégies d'investissement, est-ce que ça va modifier votre métier? Est-ce que vous aussi, vous allez faire votre mue comme les promoteurs sont en train de le faire aujourd'hui?
Dans quel sens? Dans l'investissement?
Oui, dans la stratégie d'investissement. Parce que est-ce que ça, ces impacts-là, ces mouvements-là ont une incidence sur votre façon de travailler aujourd'hui?
Pas vraiment. Pas vraiment encore, je pense. Pas vraiment.
Vous êtes toujours dans cette stratégie, on va aller chercher du rendement, on investit.
On va chercher du rendement, on investit, on essaie de donner de la qualité aussi à nos locataires. On investit dans des programmes qui sont de belle qualité. Mais sur la zone géographique, pour l'instant, on ne va pas... Enfin, on voit aussi, dans ce que vous dites, qu'il y a aussi un grand mouvement vers le littoral. Enfin, dans tous les pays du monde, les gens veulent de plus en plus habiter vers le littoral. Mais on ne va pas désinvestir à Paris pour aller aujourd'hui investir à Nantes parce qu'il y a un mouvement massif de population qui veut investir vers le littoral.
Qu'est-ce qui fait que tout le monde veut aller habiter au bord de la mer? C'est quoi? C'est l'horizon? C'est l'infini?
Je ne sais pas, mais...
Ça mériterait d'avoir une réflexion.
Il y aura peut-être un mouvement contraire avec l'érosion du trait de côte. Donc il faut être prudent avec ça. Non, nous, ce qu'on voit, pour compléter la réponse de Louis, c'est qu'il commence à se passer des choses. Deux exemples. Le premier, c'est... On a longtemps évidemment parlé de la mutation carbone du secteur, qui est notre façon de prendre la question. Évidemment, c'est les méga tendances de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, où il y a très peu de temps, personne n'était prêt à payer pour la performance carbone de la construction. Il y avait une norme, l'aéro 2020, le seuil est applicable, et puis tout le monde voulait prendre du seuil applicable, et éventuellement, si c'était mieux, c'était tant mieux, mais il n'y avait aucune prise en considération du surcoût de production qu'il était nécessaire d'engager pour faire l'aéro 2020 au seuil 2028 ou 2031. On commence à voir chez certains institutionnels, publics comme privés d'ailleurs, une propension à prendre en compte la surperformance carbone. C'est-à-dire que quand on propose du RE 2031 à la vente, bah, on peut avoir un petit premium de prix. Mmh. Et donc il commence à y avoir une prise de conscience collective de ce que ça peut avoir comme intérêt à la fois de liquidité de l'actif, de performance sur les charges des occupants. Donc ça, c'est un premier élément pris en compte. Deuxième élément de réponse sur les grandes mutations des villes, finalement, qui étaient ce que tu pointais. Mmh. La régénération urbaine, qui est un mot que tout le monde a un peu à la bouche, hein, qui est en fait l'art de reconstruire la ville sur la ville pour limiter l'artificialisation des sols et puis faire muter un urbanisme qui est généralement des entrées de ville qui ont été rattrapées par la ville. Ça, c'est un phénomène qui va nécessiter d'ailleurs un engagement fort des investisseurs institutionnels, parce qu'il va falloir un peu un acte de foi pour développer tout ça. Mais on commence à voir une vraie réflexion partenariale entre les villes et les opérateurs privés sur la mutation de ces espaces et leur adaptation aux nouveaux usages. Et donc, effectivement, nouvelles catégories de population, aux besoins de cette population, au phénomène de vie du quart d'heure, et donc d'avoir des quartiers mixtes, de créer des nouveaux quartiers de ville dans lesquels vous avez du logement, mais aussi du commerce, des services.
Presque disparition de la voiture, d'ailleurs.
Exactement, une mutation autour des transports en commun. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, ce MIPIP a été un bon exemple. Il y avait beaucoup d'aménageurs, par exemple, qui étaient présents et qui ont parlé d'une voix assez forte. Je trouve qu'il y a une petite union sacrée qui est en train de se nouer entre les opérateurs publics et les opérateurs privés, qu'ils soient promoteurs ou investisseurs d'ailleurs, autour de la mutation de ces espaces. Et donc, c'est la vision démocratique et pas stalinienne qui va s'imposer.
Non, mais c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant parce que tout ça effectivement, aborde finalement, si on sait un peu de philosophie, hein, une espèce de développement anthropologique des villes nouvelles. On voit bien qu'on arrive à la fin d'un modèle. On a parlé des problèmes de certains promoteurs. On disait effectivement, il y a une période assez faste, etc. On sait qu'on ne la reconnaîtra plus. En même temps, qu'est-ce qui était anormal? Est-ce que c'était normal d'avoir des taux très bas, ou est-ce que c'était plutôt une période anormale de l'histoire économique? Moi, j'ai l'âge d'avoir connu des taux d'intérêt à 14%, et on a biberonné toute une génération à emprunter à 0,80 ou 1%. Qu'est-ce qui est normal, Fabrice? C'est finalement d'avoir un rythme. On emprunte à 4%, franchement, c'est pas extrêmement cher. Ouais. Si je compare, moi j'ai 59 ans, je me rappelle qu'à l'âge de 20 ans, on empruntait à 14. Voilà.
Non, ce qui était anormal, c'était d'avoir des taux d'intérêt inférieurs à l'inflation. Et là où ça devient
et puis négatif. Négatif.
Et donc ça, c'est une parenthèse de l'histoire économique qui est vraisemblablement fermée jusqu'à peut-être.
Et qui a été fermement décidée, voulue par la BCE.
Oui, c'est pays. En fait, je pense que tout le monde a redécouvert l'indépendance des banques centrales. C'est-à-dire que
c'est le moins qu'on puisse dire.
Les banques centrales. Enfin, tout le monde se souvient des mots de Draghi. De Draghi quand il a fallu sauver l'union monétaire. Bon, la BCE lors de la crise de 2008, largué des capitaux finalement sur la zone euro de manière à pouvoir sauver les économies et aussi les finances des États. Et donc on a créé, ce faisant, une inflation des actifs. L'immobilier était déjà une valeur de taux, une valeur monétaire. Et donc quand vous remontez les taux, vous détruisez de la valeur d'actifs. Vous réduisez de la masse monétaire, c'est absolument mécanique. Et donc ça ne fait pas plaisir à grand monde, y compris le gouvernement, mais simplement la Banque Centrale Européenne est indépendante.
On revient à une normalisation, moi je pense.
Oui.
On revient à une normalisation.
D'ailleurs, on a l'expérience justement de l'avoir connu à plus de normalité.
Ah, oui.
On est d'accord.
Oui, moi je suis d'accord.
Okay. Et donc finalement, les autres investisseurs, vos concurrents, enfin vos collègues, vont vous emboîter le pas.
Mais j'espère.
Mais c'est le cas. De toute façon, c'est leur métier.
Exactement. Notre métier, c'est d'investir.
C'est leur métier. Donc l'attentisme, il peut être... Vous pouvez tenir un an, vous pouvez tenir peut-être deux ans. Non, j'exagère. Mais voilà, ils ont emboîté le pas. Et vous avez réouvert les vannes, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, depuis 2024. Mais en tout cas, vous regardez les dossiers.
On regarde les dossiers sérieusement, tout à fait.
Voilà, donc on peut même faire un appel à ceux qui auraient
on
des dossiers.
On en reçoit déjà pas mal.
Voilà. Mais... oui, ça veut... comme vous êtes seul aujourd'hui activé, vous êtes partenaire du
c'est ça, bah, nous on envoie des dossiers à Batipart, donc Batipart dit « Faites comme Nexity »,
est-ce que ça
dit,
marche
comme Batipart
Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que vous ne me direz pas d'ailleurs, parce que c'est normal, mais est-ce que ça fonctionne bien avec Batipart?
En tout cas, dans les opérations qu'on a ensemble, ça fonctionne très bien. Donc, on est, c'est un super partenaire. On est très content de travailler.
J'espère qu'on en fera plus.
Et d'ailleurs, j'ai un ami qui a été nommé président de Batigère.
Ah oui ?
Oui. C'est Jean-François Prévost.
Exact. Qui
était président de Quadral.
Je le salue.
Filiale très tôt. Donc, Jean-François Prévost. C'est Kamel Aoudia. Je ne sais pas si vous connaissez.
On travaille beaucoup avec le groupe Quadral.
Voilà, Kamel Aoudia, qui était directeur général, qui a été nommé président de Quadral. Voilà, Kamel, mon cher, si tu m'écoutes, et Jean-François, je l'ai appris hier, je ne les avais pas vus depuis quelques temps, parce que j'anime chaque année les assises. Les assises de Metz. Non, à Metz, j'assise les assises, dont Batigère est partenaire, avec François Grosdidier, le maire le maire de Metz. D'ailleurs, on a fait avec Nexity une très jolie mission. Les clés de la ville, justement, où on parcourt les territoires de France. Moi, je suis ravi de vous voir parce qu'on ne se connaissait pas encore.
C'était
pas
croisé. C'est un peu l'histoire de Batipart, là, que vous faites. Ouais, là,
et puis, effectivement, voilà, un petit clin d'œil à Charles Ruggieri, à Nicolas, Julien, Claire, bien évidemment, puisque c'est une entreprise familiale qui est reprise. Là, je suis là, sur l'organigramme de ce groupe. Une vraie success story. Et puis, c'est pas sans évoquer, bien sûr, quand on parle de Charles Ruggieri, voilà, je pense aussi à Jean-Philippe Ruggieri, qui était un ami que j'ai beaucoup aimé, et je pense à lui, et je lui dédie également ce MIPIM. Justement, j'ai une dernière, peut-être finir sur une bonne, sur une touche, on va dire, un peu plus philosophique. Si je vous demandais, Fabrice Aubert, de trouver comme ça spontanément, je sais que je vous l'ai déjà fait, un adjectif pour qualifier nos propos. Voilà. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? Ou même pour qualifier le temps, la temporalité dans laquelle on se trouve, là, comme ça, spontanément.
Suspendu.
Suspendu.
Oui, parce que, en fait,
on ne l'avait jamais fait, ça.
Mais non, mais tout le monde sait que le marché va redémarrer, qu'il va se passer quelque chose, etc. Ouais. Et donc, alors, c'est un appel à nos camarades investisseurs. Faites comme Batipart, passez les premiers. Attendez pas que tout le monde soit passé.
Ah, mais c'est clair.
Non, mais
on a l'impression que c'est les banquiers qui font ça.
Mais non, mais le drame du marché immobilier, c'est l'attentisme.
Donc, bah oui.
Aujourd'hui, oui. Vous avez vu que les vannes du crédit se réouvrent. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est de la volonté des clients. Donc il faut. Si on est dans un métier de temps long, ça sert à rien d'avoir absolument voulu toucher le fond de la piscine. Parce que en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens sur un métier qui est aussi soumis à des aléas macroéconomiques. Donc personne ne sait où seront les taux d'intérêt dans 10-15 ans. On est sur des métiers de fondamentaux et de temps long. Donc ça ne sert à rien d'attendre que les choses se passent à trois mois après.
Je comprends mieux. Suspendu. Louis.
Attentiste.
Alors, pour être attentiste, alors si on est attentiste et suspendu finalement aux décisions, il serait une bonne chose pour les autres investisseurs, c'est que vous réouvriez les vannes comme le font les banques. En même temps, les banques se posent des questions très claires, hein, elles veulent reconquérir des clients. Il y a eu quand même une fuite incroyable de clients en banque de détail et de dépôt. J'ai regardé les statistiques. Moi qui ne suis pas forcément un homme je ne suis pas un digital natif, je vois les croissances de parts de marché pour les banques internet absolument phénoménales. Une appétence incroyable pour les monnaies créées, la crypto-monnaie. Je suis très impressionné par les volumes, très impressionné par les volumes. Je ne sais pas si tout ça remplacera peut-être, je ne sais pas, je parle à l'économiste que vous êtes également, ça va remplacer les monnaies fiduciaires, mais on a l'impression d'un véritable mouvement de fond. C'est un peu pieux, ça, qu'on remplacera un jour les monnaies fiduciaires qui,
non,
finalement...
Non, on remplacera jamais les monnaies fiduciaires, mais en fait, vous remplacez une valeur d'échange, ça remplacera l'or.
Voilà. Oui. Ah oui.
Ça dépend des cryptos, mais si vous prenez l'exemple du du Bitcoin qui a un stock de monnaie fini, bah, vous avez un actif déflationniste par nature. Voilà, donc,
oui, voilà.
Donc c'est une valeur de réserve.
C'est très clair. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ce moment. J'aurai plaisir à vous revoir sur le plateau. Alors, je vais vous dire, vous êtes des financiers, tous les deux. Et moi, je ne suis pas franchement un financier. Ben, j'ai tout compris. Donc, merci. Voilà, je pense qu'on a aussi une nouvelle génération qui vulgarise suffisamment pour qu'on puisse comprendre. Parce que souvent, parfois, les financiers, vous savez, c'est un peu comme les avocats. Ils parlent le même langage, ils sont dans l'entre-soi. Et donc, c'est quand même important aujourd'hui. On vit quand même dans une époque d'ouverture. Merci de vous y être prêté. Fabrice Aubert, directeur général adjoint du groupe Nexity. Merci d'être passé par le plateau.
Beaucoup.
Louis Bayon, le directeur général immobilier pour Batipart. Longue vie à votre entreprise et merci d'être passé par le plateau. 9h51, on est toujours en direct ici au MIPIM. C'est la 34e édition. On vous attend nombreux. Journée très intense et le temps commence à poindre avec un petit rayon de soleil. Ça peut être extrêmement sympathique. A tout de suite et surtout, vous restez connectés sur Radio Immo, bien sûr.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.